Bienvenue à cette première émission de Cinébrunch. Bonjour à tous nos auditeurs. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de mes collègues Louis Laramé et Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour.
Bonjour.
Hey, hey, hey.
Et rapidement, Cinébrunch, c'est quoi? C'est une émission magazine où on va parler de cinéma, bien sûr, faire des critiques de films, on va discuter de nos coups de cœur et donner notre opinion sur des artistes, faire des quiz et bien plus encore. Chose certaine, on va avoir beaucoup de plaisir parce qu'on est trois et on a des goûts parfois bien différents en matière de cinéma, n'est-ce pas?
Uh-huh.
Mais Louis, t'as toujours raison, c'est ça?
Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent.
Exactement. Aujourd'hui, pour notre première émission, on va vous aider à nous connaître et pour ça, on va parler de nos films de date. Bon, c'est quoi un film de date? Certains diront que c'est un concept un peu étrange, mais l'idée vient de Louis, donc voilà. Il nous expliquera. Bref, on vous dévoilera nos films de date dans une trentaine de minutes et on va aussi parler du problème d'infiltration, le dernier de Robert Morin. On a vu ensemble les trois ce film et ça nous a provoqué trois réactions totalement différentes, n'est-ce pas?
Assez différentes. Oui.
Assez drôle.
Tellement qu'on a décidé de faire un bloc là-dessus aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, quelques critiques de films. Louis, tu as vu un film de monsieur avec des fusils pis tout.
J'ai vu Assassin américain, un film qui a énormément d'ambition, mais on va voir si on réussit à s'y rendre.
Et Mélina, toi, t'es allée voir le dernier film de Léa Poule.
Oui, il est très touchant. Au pire, on se mariera.
De mon côté, je suis allée voir l'inconfortable Mother avec Jennifer Lawrence. Ouch. On peut dire que Darren Aronofsky n'y est pas allé avec le dos de la main morte. Oui, bon, Louis, je sais que t'aimes pas mes expressions. Bref, peu importe. Oh, 11h passées, il est trop tard pour déjeuner? Ou trop tôt pour dîner? Voici Cinébrunch. Et Louis, Assassin américain, ça tue-tu ou ça tue pas?
C'est américain. C'est définitivement américain.
Donc ça tue.
Écoute, ça, c'est un nom de... Il y a énormément de décès dans ce film-là. Donc, qu'est-ce que c'est, Assassin américain? C'est un film de Michael Cuesta qu'on a un peu connu pour un truc qui s'appelait Secret d'État en 2014.
Okay.
Pour Long Island, Expressway en 2011. Mais qui n'a pas nécessairement un profil si grand que ça. Il y a entre autres dans ce film-là Dylan O'Brien, qu'on a connu surtout dans la série des Maze Runner, le labyrinthe, l'épreuve et le labyrinthe. Terre brûlée.
Ah, OK, oui. Okay.
Également, il y a le grand, l'extraordinaire, le merveilleux Michael Keaton, qui n'est pas tant utilisé. Mais avant de pouvoir vous parler de ce film-là, on va aller écouter la bande-annonce. Jim pèse sur le piton.
Quels sont vos souvenirs de la mort de vos parents?
Un accident de voiture. J'avais 14 ans.
Vous avez commencé à avoir des problèmes de discipline. Vous vous êtes fait renvoyer de 3 établissements. Venons-en à cette fameuse journée sur la plage.
Katrina, je t'aime passionnément. Veux-tu m'épouser?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a l'air différent d'un film de monsieur conventionnel.
Mais en fait, dès le trailer, on a déjà deux erreurs intéressantes. Parce que ce film-là est un film à propos de Mitch Rapp, donc le personnage de Dylan O'Brien, qui est un jeune homme dans la vingtaine qui, sur les plages de l'Espagne, demande sa conjointe en fiançailles.
Ah.
Scène très cute, scène extraordinaire. Il est en train de filmer le tout sur son cellulaire. On voit donc, au travers le cellulaire, un peu la scène qui se passe. Puis là, sa fiancée accepte. Et là, il s'en retourne vers le bar pour aller chercher des drinks de célébration. Et pendant qu'il le fait, des terroristes qu'on comprend d'origine arabe et musulmane débarquent sur la plage et commencent à descendre sans discrimination les vacanciers qui y sont. Tuant par le fait même la jeune fiancée de Mitch. Donc c'est ça, c'est comme ça que le film commence. Cette scène-là se passe et tout de suite après, on coupe et on se ramasse 18 mois plus tard avec un Mitch qui est soudainement barbu, reclus sur lui-même, qui a perdu la joie de vivre qu'on lui voyait sur les plages de l'Espagne, qu'on voit en train de s'entraîner aux arts martiaux mixtes, qu'on voit s'entraîner avec des armes à feu,
okay.
qu'on voit parler en arabe sur son ordinateur. Puis à un certain point, on voit son interlocuteur lui envoyer une vidéo encryptée qui est un appel au djihad contre les Américains. Puis en réalité, tout l'objectif derrière ça, puis tout le comment ça fonctionne après ça, c'est que on comprend qu'il s'est entraîné comme un fou suite au décès de sa conjointe pour devenir une espèce de tueur sans merci qui est capable de tout faire. Donc les arts martiaux, okay. les armes à feu, on le voit également tirer du couteau, on le voit courir au travers de la ville. Donc on s'entend que il s'est mis en forme. Là.
Okay.
Et tout ça dans un objectif d'infiltrer la cellule du type qui est responsable de l'attentat sur les plages d'Espagne. Comme il allait arriver sur place, il est en train de rencontrer le type, il est en train de se faire poser des questions sur pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, ben, l'armée américaine débarque et descend tout le monde, le privant ainsi de sa vengeance. Ça le met en beau fusil. Il se met à attaquer le cadavre du type qui était en charge de l'attentat. On le voit un peu disjoncté à ce moment-là, okay. puis c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet extrait-là dans la bande-annonce? C'est que vous avez entendu le personnage de Salen Latin, l'agent de la CIA, qui fait l'introduction de Mitch, lui poser des questions sur ses parents. Dans le film également, on a cette scène-là où il y a des questions sur ses parents, où ça a l'air d'être un événement tragique, où à 14 ans, il a perdu ses deux parents dans un accident de voiture.
OK.
C'est mentionné une fois, et ça ne revient jamais.
Ah.
Et c'est à plusieurs moments dans le film, on va voir des trucs comme ça qui pourraient avoir des hooks intéressants, qui pourraient...
On n'utilise pas ces...
Ils sont jamais rétablis.
OK, OK, puis, OK.
Je comprends que c'est un film qui est tiré d'un livre, mais c'est pas nécessairement nécessaire. C'est pas obligatoire de forcer ainsi tous les détails qui sont dans les livres. Fait que bref, l'histoire, Mitch, sa conjointe décède okay. dans l'attentat, s'entraîne, devient un lean, mean, killing machine, où il veut infiltrer, se rend là, se fait voler sa revanche par l'armée américaine, se ramasse en prison, dans une prison secrète de la CIA, évidemment, se fait interroger, se fait poser des questions, se fait vraiment mettre sous pression, et finalement se fait offrir une position dans un groupe d'élite commando dirigé par Stan Hurley, qui est joué ici par Michael Keaton, qui est un espèce de commando qui n'existe pas sur les papiers, donc c'est un groupe, c'est un Black
secret,
Ops,
c'est, okay, ça. Ouais,
c'est ça. C'est tout à fait. Puis là, Michael Keaton, dans ce MC, joue Stan Early, un ancien Navy SEAL qui est un peu brisé, qui a recommencé à fumer, qui se fait reprendre par un des personnages à ce sujet-là, qui est encore amer de ses échecs dans le passé. Donc ça, c'est l'histoire du film, ça, c'est le setup. Et j'ai pas aimé ça. Là, on le sait, ceux qui me connaissent le savent, je frémis d'excitation devant une belle scène de combat. Je tremble de d'anticipation quand je sais qu'il va y avoir un bel angle de caméra, un beau moment de gun. Et dans les dernières années, oh mon Dieu, j'ai été choyé. Qu'on parle des John Wick, qu'on parle de Kill 'Em All, qu'on parle de Atomic Blonde qui est sorti plus tôt cet été, même Baby Driver jusqu'à une certaine limite.
Des bonnes scènes d'action. Des bonnes
scènes
d'action.
C'est extraordinaire. Là, dans Assassin américain, j'ai rien de tout ça. Dans Assassin américain, j'ai des scènes de combat tournées trop vite, qui changent trop rapidement de plan. J'ai un retour à un protagoniste qui sait tout. Vous vous rappelez comment je vous ai parlé d'un entraînement au corps à corps, d'un entraînement aux armes à feu? Ben, dans le film, il y a également des scènes où il fait des passes de voiture qui sont inaccessibles au commun des mortels. Okay. On le voit également faire des passes de bateau qui sont inaccessibles au commun des mortels, alors qu'il n'y a absolument rien dans l'histoire qui justifie les connaissances de ce personnage-là. Tous les moments où on devrait avoir des hooks affectifs avec le personnage, il n'y a rien qui fonctionne. Le personnage Mitram est une espèce de être froid, animé de vengeance. Tout le long du film, on lui dit « ne prends pas ça personnel, fais ça », puis on essaie d'inculquer ce message-là pour que finalement, à la fin, on lui donne raison. Donc, tout le message du film, l'espèce de morale qui aurait pu être là, n'existe pas dans une histoire qui se perd un peu puis qui est juste une espèce de ramassis des clichés de films d'action.
Ouais.
Qui, finalement, on a déjà vu. Là, c'est les James Bond à la Pierce Brosnan dans les pires années. Là. C'est les moments où est-ce que...
Mais les chars étaient cool dans ces années-là, je trouve.
Ouais, puis on a même pas ça ici.
Ah, OK.
Ici, on a du placement de produits pour Cadillac.
Ah, OK. Ah, oui, carrément.
Ce qui peut avoir de l'intérêt pour certains, mais qui fait pas des scènes de chars intéressantes.
Normalement, non, c'est ça. OK.
On a un personnage, le méchant, qui s'appelle Ghost, et joué par Taylor Kitsch, mieux connu pour avoir joué un quarterback dans une série télé américaine. Et ça paraît, parce qu'il fait très héros américain avec le drapeau tatoué sur le cœur, vraiment plus que méchant, doté d'ubiquité et d'omniscience, qui essaie de partir un complot international avec des armes nucléaires.
Fait que ça marche pas trop, ce film-là.
Sur une note sur 10, je lui donnerais un 4 sur 10 pour m'avoir au moins donné 2-3 moments d'excitation, mais sans plus.
Merci, Louis.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène, dans les pays d'ivoire et d'ébène. J'effacerai tes larmes, tes peines, rien n'est trop beau pour une si belle. Oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel.
Mélina, l'incroyable Léa Poule a encore frappé et tu as regardé son dernier chef-d'œuvre.
Oui, le film est au pire, on se mariera. Donc, Léa Poule qu'on a connue dans La Passion d'Augustine, Maman est chez le coiffeur et plusieurs autres films.
Mm-hmm.
Donc, le film mettait en vedette Sophie Nélis, qu'on a vu dans Monsieur Lazare, La voleuse de livres, Karine Vanasse et Jean-Simon Leduc. Et c'est basé sur un livre de Sophie Bienvenue qui s'appelle également Et au pire, on se mariera. Qui, Sophie Bienvenue, a collaboré au scénario du film avec Léa Poule. Donc, avant d'en dire plus, on va aller écouter la bande-annonce.
Comment tu t'appelles?
Aïcha.
Puis t'es quel âge, Aïcha?
18.
18 ans. T'es sûre de ça?
Ta mère est supposée appeler pour prévenir quand t'es absente.
Mais j'étais malade.
Ton petit comportement de merde, je suis pas obligée de tolérer ça. Aïcha!
Je voudrais être une pute. Mais juste pour un seul client. Un respectueux. Je peux-tu dormir ici?
Ben non.
Ça a l'air intense.
Oui,
ça,
en
ça
fait...
Ça sonne lourd.
Non, c'était très touchant. Mais le personnage principal qui s'appelle Aïcha, c'est pour ça la chanson qu'on écoutait avant, elle a été nommée comme ça à cause de cette chanson-là. Donc, pour vous placer un peu le film, oui. Ça se passe aujourd'hui dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Le film commence avec l'arrestation d'Aïcha, qui est une adolescente de 14 ans, qui se fait embarquer dans une voiture de police. Donc, Aïcha, qui est interprétée par Sophie Nélis, est dans une salle d'interrogation et elle répond aux questions d'une travailleuse sociale qu'on voit pas, qu'on n'entend pas non plus. À travers une suite de retours en arrière, on va apprendre à connaître Aïcha, son enfance, ses relations, puis surtout ce qui l'a mené à se faire arrêter. Donc, Aïcha tombe amoureuse de Baz, un homme qui a deux fois son âge. Baz, qui est interprété par Jean-Simon Leduc, il la prend un peu sous son aile comme un grand frère le ferait. Puis, c'est cette volonté-là, à elle, d'entrer en relation avec lui, qui va la pousser à faire des actions extrêmes.
Ouais.
Je sais que c'est tiré d'un livre, mais est-ce qu'on connaît vraiment des gens qui se font appeler Baz dans la vie de tous les jours?
Je sais pas si c'est pour Sébastien ou si c'est pour Bastien.
C'est un musicien, alors j'imagine peut-être le nom d'artiste.
La basse.
On va laisser ça là.
C'est okay. Ça. Donc, pour revenir à Aïcha, c'est une jeune fille qui a aucun bon modèle relationnel. Sa relation avec sa mère est très conflictuelle. Elle connaît pas son père biologique, puis ses deux seuls amis sont des prostituées trans. Sa vision de la sexualité est aussi super dysfonctionnelle. Puis Aïcha va mentir tout au long de l'histoire pour avoir ce qu'elle veut, ce qui va nous amener des fois à vivre deux fois la même version de l'histoire quand elle admet à la travailleuse sociale qu'elle a menti.
Fait qu'on revit, mettons, une même scène deux fois, mais c'est plus la même chose.
Exactement. La version change de l'histoire. Donc, pour le film, je dirais que les personnages, ils sont super réalistes, ils sont vraiment bien développés. Puis, à travers les nombreux retours en arrière, on comprend vraiment bien la psychologie d'Aïcha. Moi, je dirais personnellement, l'acteur qui m'a le plus marqué dans le film, c'est Jean-Simon Leduc, qui arrivait parfaitement à exprimer, selon moi, tout le mélange d'émotions que vivait Baz simplement avec ses yeux. Puis, bon, les performances de Karine Vanasse, Sophie Nélis, étaient également excellentes. On s'entend que c'est deux artistes qui sont connus à l'international, donc on ne s'attendait pas à moins d'elles.
Mm-hmm.
Puis, il y a aussi Isabelle Nélis, qui est la petite sœur de Sophie Nélis, qui jouait le rôle d'Aïcha quand elle était plus jeune, que j'ai trouvée aussi très bonne et surtout très touchante dans un rôle qui n'était pas nécessairement évident pour elle, je pense.
Peut-être une carrière similaire à celle de sa sœur à venir.
Peut-être, à surveiller, en tout cas.
Parce qu'elle a commencé jeune, Sophie Nélis, là, était jeune dans Monsieur Lazare.
Oui, 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 maintenant elle a 17 ans, puis je dirais qu'en tout cas, elle demande vraiment beaucoup de potentiel.
Oui.
Sinon, je dirais que, ben, moi, c'est un film, personnellement, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ça se passe dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Puis, c'est là que j'ai moi-même grandi. Donc, je reconnaissais les lieux. La cour d'école qu'on voit à Aïcha, c'est celle de mon école primaire à moi. Donc, pour moi, l'immersion était vraiment complète. Puis, je pense aussi qu'on peut vraiment facilement s'attacher, s'identifier au personnage. Parce que même si on ne vit pas des choses aussi extrêmes qu'elle, c'est tous des choses qu'on a déjà vécues. Le premier amour, le sentiment d'abandon, de rejet, l'adolescence, tout ça. Donc, je pense qu'on peut facilement s'identifier à ça. Puis, malgré le fait qu'on comprend la dynamique, qu'on s'attache, qu'on s'identifie au personnage, on reste quand même assez surpris de la tournure des événements. Le rythme est bon. Le fait de faire plusieurs retours en arrière, moi, ça ne m'a pas dérangé. Ça m'aidait plutôt à mieux saisir la psychologie d'Aïcha, parce qu'il y a vraiment un lien à faire entre l'ordre dans lequel elle raconte son histoire à la travailleuse sociale et sa personnalité. Les deux sont vraiment sinueux, chaotiques. On saute vraiment du coq à l'âne.
Ah oui, bon.
Oui. Puis dans ce film-là, il y a vraiment beaucoup de malaise et de sujets tabous qui sont abordés, comme par exemple l'attirance pour un homme plus vieux.
Mm-hmm.
Donc on la sent très, très pressée de sauter des étapes, d'être une adulte, de s'évader de son quotidien. Puis c'est, selon moi, une grande partie de ce qui l'a attiré chez Baz. Puis... un moment très fort du film qu'on a entendu dans la bande-annonce, c'est quand elle explique à Baz que plus tard, elle aimerait ça être une pute, mais juste pour un gars qui s'aimerait beaucoup, il prendrait soin d'elle. Puis on voit dans ses yeux que vraiment, elle pense vraiment ça. Elle a un ton rêveur, elle a les yeux qui pétillent. Puis elle termine en disant, puis au pire, si c'est trop compliqué, ben on se mariera.
Le titre du film.
Exactement.
Si je peux juste me permettre, est-ce que c'est un film... Parce que je t'entends parler des thèmes qui sont des thèmes qui me semblent vraiment liés à l'adolescence, mais chez la jeune fille, est-ce qu'un homme peut aller voir ce film-là puis quand même être touché par les thèmes, penses-tu, ou c'est vraiment plus orienté?
Je pense qu'un homme peut voir le film puis vraiment se sentir interpellé, parce que même si... peut-être plus avec le rôle de Baz, qui justement, lui, va développer une grande compassion pour elle, va vouloir l'aider, mais en même temps, il se retrouve pris dans tout ça. Puis ça fait en sorte qu'on peut s'identifier aussi à lui aussi, tu sais.
Okay, c'est pas un film de filles, pour, je pense, non, pour non, répondre à ça. La question de Louis, on dirait. Puis,
je voulais pas le dire comme ça.
Non, c'est ça. C'est...
En fait, aussi, si on y pense un peu dans sa citation que je parlais, dans le fond, le mariage, là, originalement, c'est un mélange d'amour, de sexe, de protection, puis de sécurité, même si on sait qu'il y a eu vraiment plusieurs mariages sans amour. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que sa vision à elle d'être une prostituée est plus rose que sa vision du couple. Puis je pense que ça en dit vraiment long sur elle.
Ben oui, elle rêve d'être une prostituée, c'est ce qu'elle dit.
Mais pour un seul homme, c'est comme
pour un seul homme, c'est
une
ça,
version c'est une... weird de ce que c'est qu'un couple.
Mais je pense que c'est ça. Pour elle, c'est fonctionnel de...
Mais pour elle, les relations, elle a aucun bon modèle. Elle connaît pas son père biologique, mm-hmm. Sa mère, bon, est plutôt célibataire. Ses deux seules amies, c'est des prostituées trans. Juste ça, ça en dit vraiment long ouais. Sur le personnage. C'est un personnage qui est très complexe, puis qui est super bien développé. Puis vraiment, c'est un film qui est super touchant. Puis, comme je dis, on s'attend pas au développement qui se passe dans l'histoire. Donc, on reste vraiment surpris avec ce qui se passe.
Du grand Léopold, n'est-ce
pas? Du grand Léopold, oui, effectivement.
Eh bien, merci beaucoup, Mélina.
On passe tout notre temps ici. Je veux en faire un paradis.
Je vous en prie, entrez.
C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Bonjour.
Bonjour.
Tu savais qu'il avait une femme?
Tout ce que j'essaie, c'est d'apporter un peu de vie dans cette maison. Accueillir d'autres gens, d'autres idées.
Je suis désolé.
On change de registre ici. Vous venez d'entendre la bande-annonce du film Mother, qui est à l'affiche en ce moment. Et Mother, c'est avec la jolie Jennifer Lawrence et Javier Bardem, le méchant dans James Bond Skyfall, si vous vous souvenez. Jennifer Lawrence, qu'on connaît évidemment pour Hunger Games. Et chose intéressante, c'est la copine de Darren Aronofsky qui a réalisé le film Mother. Je savais pas ça avant de faire une petite recherche et ça m'a étonné quand même, mais c'est intéressant. Tu savais, toi, Louis?
Non, absolument pas.
Bon, c'est ce que je pensais. On doit à ce réalisateur Aronofsky, on doit notamment Requiem for a Dream, The Fountain et Black Swan, que j'ai particulièrement aimé. Et voilà, oui. Donc le film est en attente de classement. C'est très difficile de dire c'est quel genre de film. C'est pas exactement un film d'horreur, malgré qu'il y a des éléments d'horreur dispersés à travers le film. T'sais, on sursaute de temps en temps, tout ça. Mais on pourrait dire que c'est un thriller d'horreur psychologique avec des majuscules au mot psychologique parce que c'est assez intense, merci pour le cerveau, ce film. L'histoire, ben, c'est un couple composé de Jennifer Lawrence et Javier Bardem qui vivent reclus dans une énorme maison de campagne aux allures d'un manoir vieillot. Chose intéressante, on n'entend jamais leur nom. On connaît pas le nom des personnages dans ce film. C'est sombre, c'est parfois glauque et tout le film se passe dans la fameuse maison qui est un peu étrange et qui semble avoir des caractéristiques vivantes tout au long du film. Est-ce que c'est une métaphore? Peu importe, c'est pas vraiment le cœur du film troublant à mon avis. La jeune femme passe la plupart de son temps à retaper la baraque, à peinturer, à mettre du plâtre sur les murs, alors que son mari, qu'on dit poète, a le syndrome de la page blanche et tente de gribouiller quelques mots sans succès. Donc, est-ce que c'est un couple heureux? Aucune idée, mais pour elle, la solitude et l'isolation semblent correspondre à ses ambitions, et c'est là que ça se corse quand un invité imprévu, un total inconnu, âgé et mal en point, cogne à leur porte pour demander l'hospitalité du couple. Et on découvre rapidement que le mari a un caractère beaucoup plus accueillant que sa femme. Elle, de son côté, souffre de la générosité et de l'hospitalité de son mari, qui croit à travers le film, alors que de plus en plus de visiteurs impromptus s'approprient leur logis. Et ça devient vraiment, vraiment, vraiment intense. Dans la première moitié du film, on peut quand même se demander si la fille est folle, si elle délire. Mais encore là, loin de tous les clichés, parce qu'on nous tend une perche assez frêle au niveau de la folie. On va absolument pas nous orienter dans aucune direction dans ce film-là, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Il n'y a pas de clichés qui se réalisent ou qui ne se réalisent pas. C'est toujours un peu ambigu, un peu flou. On vit vraiment les émotions de la femme en même temps qu'elle. Ça respire, on a le temps de penser, d'observer, d'analyser et de tenter désespérément de trouver une explication ou de deviner ce qui se passe. Mais non, impossible, les événements les plus improbables se passent et sont amenés d'une manière absolument imprévisible, malaisant. Et ça se tient tout à fait. Par contre, ça marche, on est heureux. Ça, c'est pour les deux premiers tiers du film. Et je tranche réellement une ligne après deux tiers parce que le dernier tiers, aïe, aïe, aïe. Louis, c'est la partie qui va t'intéresser le plus. Évidemment,
il y a des guns?
Non, ben oui, il y a des guns, effectivement, mais c'est tout à fait inattendu, d'ailleurs. Je vais pas vous dévoiler le punch, mais on peut dire qu'Aronofsky a gardé le meilleur du feu d'artifice pour la fin. Ça pète littéralement de partout. C'est absolument surréaliste, parfois absurde, mais toujours inattendu. L'image que j'ai, c'est qu'on vomit une scène d'action extrême d'au moins 15 minutes non-stop. C'est totalement inattendu, c'est gore, c'est violent, c'est traumatisant, même pour les âmes sensibles, s'abstenir. Et le climax final est vraiment dégueulasse dans le sens de dégoûtant. Heureusement, le réalisateur a laissé une heure et demie aux spectateurs pour finir leur popcorn avant d'en arriver à ce moment crucial du film.
J'ai une question pour toi, Jim.
Oui?
Je n'ai pas vu le film. Par contre, j'ai entendu beaucoup parler de Johan Johansson, qui est la personne responsable de la soundtrack du film.
Oui, ben justement, j'y viens.
Oh!
Ce film avait une soundtrack, justement, par Johan Johansson. Je pensais que c'était Johan Johansson. Mais bon, peu importe.
Peut-être.
Mais c'est ça, c'est tellement... Le film se tenait tellement en lui-même, sans la musique, qu'ils ont convenu les deux de juste retirer. Donc, il n'y a aucune musique dans ce film-là. C'est assez spécial, mais si on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est quand même captivé tout au long du film. Et l'ambiance sonore est écœurante là, dans ce film-là, ça je dois admettre. Le film est super claustrophobique. Tant au début, on sent l'espace et la solitude qu'à un moment donné, on a envie de sortir de la salle pour respirer parce qu'on se sent coincé, mais totalement. Les acteurs sont bons. Jennifer Lawrence est parfaite dans son rôle de femme timide et soumise et elle va évoluer évidemment durant le film. Beaucoup de gros plans d'elle alors qu'on est beaucoup plus raisonnable avec les autres participants. On voit l'émotion dans ses yeux, ça semble vrai. De mon point de vue, en tout cas, c'était très crédible au niveau du jeu de Jennifer Lawrence. Le mari joue aussi parfaitement, le mari qui a joué dans James Bond, évidemment. Et lui, il joue vraiment le rôle du bon samaritain. À un moment donné, dans le film, il devient presque une espèce de gourou malgré lui. Et malgré tout ce qu'on peut penser qu'il fait vivre à sa femme, on dirait qu'on peut presque pas lui en vouloir. Le grand point fort du film, à mon avis, c'est l'originalité. C'est remarquable. J'ai jamais rien vu qui ressemble à ça dans aucun film. L'intrigue est magnifiquement ficelée. Il y a de l'imagination là-dedans. À certains points, je me suis même amusé par la démesure parce que c'est tellement poussé à l'extrême qu'on finit par se demander si on n'a pas changé de film carrément. Les points négatifs de ce film, toutefois, c'est que le débit est assez lent au début. On a choisi d'augmenter progressivement l'intensité du film, mais on pourrait peut-être couper un peu dans la première demi-heure, là, selon moi. Faut savoir que c'est pas mon genre de film, donc pour moi, le malaise du film était peut-être un petit peu trop intense et la fin un peu trash pour mes goûts personnels, mais j'ai même eu besoin d'une bière après le film pour décompresser.
Ouais, mais c'est parce que t'es un peu une petite nature quand il s'agit de ce genre-là dans les films. On y reviendra plus tard.
Plus tard, dans une émission subséquente, sans doute.
Ah non, on revient là, tout à l'heure là-dessus quand on va parler du problème d'intégration.
Ah bon, d'accord. Finalement, est-ce que je recommande ce film? Oui. Mais seulement si la critique a piqué votre curiosité ou si vous avez envie d'expérimenter quelque chose de complètement différent, parce que si vous avez l'âme sensible, restez chez vous. Note sur 10, 7.5. Est-ce que je retournerai voir ce film? Jamais. Mais c'est un excellent film. Jusqu'à midi, vous écoutez Cinébrunch. Et cette semaine à Cinébrunch, c'est le moment de parler de nos films de date. Louis, explique-nous le concept.
Ben voilà, moi en fait, je suis cinéphile. Vous êtes surpris, j'en suis sûr.
Qu'est-ce que tu fais dans cette émission?
Ouais, c'est ça. Par conséquent, j'étais jusqu'à tout récemment célibataire, donc j'ai été sur plusieurs dates. Par conséquent, je me suis souvent fait poser la question, mais Louis, quel est ton film favori? J'ai tellement vu de films. Mes films favoris incluent des trucs comme le classique sud-coréen Old Boy, qui est un truc hyper violent, ou le très excellent Antéchrist de Lars von Trier, qui est une exploration de la psychose au travers un couple qui plante, ou Full Metal Jacket, qui est un film sur la guerre du Vietnam et les côtés sombres de la chose par Stanley Kubrick. Ergo, toutes pas des choses qui font des sujets vraiment confortables autour d'une table de première date.
De toute évidence.
Et puis je dis première date, mais ça pourrait aussi être...
Une deuxième date.
Souper avec la famille. Je ne commencerai pas à expliquer à mon père un peu plus âgé que mon film favori implique un monsieur qui se fait emprisonner pendant plusieurs années puis qui en sort fâché à casser des gueules.
Ça pourrait créer un malaise.
Ça pourrait être plus compliqué. Mais Old Boy est excellent, tout le monde devrait le voir. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé au concept du film de date. Donc, c'est le film qu'on a apprécié, qui nous a marqué, mais qui n'est pas nécessairement... qui est présentable, qui est okay. PG-13.
Politically correct.
Exactement. Okay.
Et puis, ben justement, toi, dis-moi pas que ton film de date, c'est Ocean 12 ou Mission Impossible, parce que je démissionne.
Non, non, ce ne sont ni ces deux. Ce sont pourtant des films qui auraient pu. Mon film de date, c'est La Matrice 3. Pourquoi le 3? C'est une vieille histoire qui, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup aller au cinéma. Je suis originaire de Magog. Et à Magog, il y a un cinéma, le cinéma Magog, qui a trois salles. Et on a la salle 3, on a un peu l'impression d'être dans un cheap cinéma maison.
Ah. Alors, t'as vu La Matrice 3 dans la salle 3?
Oui, mais sans avoir vu ni le 1 ni le 2. Donc, pour moi, ma première expérience de l'univers dans La Matrice, c'est le 3.
Oups.
Film qui, même pour les gens qui ont vu la trilogie au complet, est compliqué, vraiment out there, et pas très bon, en fait, confus et too much. Donc, ma première expérience commence avec toutes ces choses-là. Donc, je me suis. Et j'ai vu par la suite les autres, mais c'est moi, un jeune homme de 12-13 ans, qui voit ça comme première expérience et qui, ébloui devant les effets spéciaux, décide d'aller voir les autres et qui découvre un de ses films favoris qui était La Matrice 1.
Oui.
Donc, c'est ça. Donc, pour moi, mon film de date, quand j'ai conté une histoire d'un film qui m'a marqué, qui a été différent, c'est La Matrice 3. On écoute la bande-annonce.
Waouh! As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Qu'est-ce qui m'arrive?
La réponse est là-bas, Neo. C'est la question qui nous anime tous.
C'est quoi la Matrice?
Ouh.
À écouter la bande-annonce, je me rappelle pourquoi je préfère la Matrice 1.
De toute évidence. C'est drôle parce que le 3 est clairement plus beau au niveau graphique, mais l'histoire, de mémoire, l'histoire est assez. Bizarre, cheesy, et ça va dans tous les sens.
Non, 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 l'expression anglophone correcte au niveau technique, c'est l'histoire, c'est un dumpster fire. C'est à ce point-là un feu de vidange. Parce que c'est à ce point-là, il y a trop d'affaires qui se passent, l'histoire est mal connectée, et il y a des scènes qui devraient être émotives, mais qui sont mal rendues parce que, bien que j'aime beaucoup Keanu Reeves, sa face le sait pas quand il a des émotions.
Oui, ben c'est ça un des problèmes de cet acteur. Mais bon, on reviendra là-dessus éventuellement. Mélina, toi, ton film de date, ça serait quoi?
Mon film de date, je suis allée avec tous les films Harry Potter. Il a fallu que j'en choisisse un, donc oui. J'ai choisi le 4. Donc on peut On va écouter la bande-annonce avant que j'explique pourquoi.
Cette année, Poudlard accueillera un événement légendaire. Le tournoi des trois sorciers.
Quand elles font ça.
Pour une série d'épreuves magiques.
Monsieur Weasley, placez votre main droite sur ma taille.
Où ça?
Et voilà, donc, Harry Potter 4.
C'est un beau mélange d'humour et d'intensité, ce film.
Exactement, c'est pourquoi que c'est un de mes préférés. C'est qu'ils sont plus des enfants, ils sont pas encore des adultes avec une vie super compliquée. Ils sont entre les deux, donc ça laisse place à plusieurs moments d'humour qui sont... Pour moi, je trouve vraiment très drôle. Et pourquoi un film de date?
Oui.
C'est parce que si je datais quelqu'un qui n'avait jamais vu les films Harry Potter, la date se terminerait là. Parce que...
Ah! Passe ou ça casse?
Ça passe ou ça casse.
Juste pour qu'on soit clair, Harry Potter 4, c'est aussi l'Harry Potter où il y a des hormones, de la magie, puis oui. Des dragons. Je veux dire, c'est une recette à gagnante.
Voilà, voilà.
Tout à fait. Et de la natation aussi. N'oublie pas.
Hein. C'est pas ça, c'est pas... Non, maintenant qu'on en parle, j'aime mieux mes trois à moi.
OK, c'est correct. Donc, voilà. Donc, ah oui, ça passe ou ça casse?
Ça passe ou ça casse, carrément, parce que pour moi, Harry Potter, les livres, les films, ça l'a marqué mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Donc, être avec quelqu'un qui n'a pas ces références-là, pour moi, ça serait un crime.
Mais si le gars a lu les livres, mais qu'il n'a pas regardé les films, ça marche-tu pareil?
Jim, tu dis ça parce que t'as pas vu les films.
J'ai vu les trois premiers. Bref.
3, 2, 1. Jim, ton film de date, qu'est-ce que ce serait?
Mon film de date, vous allez me trouver plate, mais moi, mon film de date, je l'ai pas inventé pour bien paraître. J'ai pas honte de le dire à une première date. C'est vraiment mon film préféré. Ou alors, c'est peut-être pour protéger ma réputation à la radio, mais en tout cas, Cloud Atlas,
je vous confirme, madame, messieurs, c'est effectivement son film favori.
C'est mon film favori. Cloud Atlas, La cartographie des nuages, voilà le nom en français m'échappait, qui est basé sur le film de pas le film, le livre de David Mitchell. Et voilà, et c'est avec Tom Hanks et Halle Berry qui, étrangement, dont le nom me donne envie de manger des fruits, je sais pas pourquoi. C'est un film germano-américain de 2012, évidemment adapté du film du Britannique David Mitchell, que j'adore. J'ai lu le livre, j'ai vu le film au moins 10 fois, donc 4 fois à la maison du cinéma, 2 fois le même jour. Et c'est un film tout à fait accessible, pas trop violent, pas trop weird, mais juste assez. On écoute la bande-annonce.
Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another.
You ever think the universe was against you?
Fear, belief, love, phenomena that determine the course of our lives. These forces begin long before we are born and continue after we perish.
Cloud Atlas, c'est quoi? C'est 6 histoires. De lieux et de cultures totalement différentes qui s'entrecoupent et qui se rejoignent de différentes manières dans le film. Les acteurs jouent différents rôles dans plusieurs de ces histoires. On est témoin pour vous donner une idée, là, on est parfois dans un voyage en bateau de 1849. On passe à un monde post-apocalyptique en passant par la rencontre de deux compositeurs dans les années 30, une enquête journalistique dans les années 70 et de la vie modeste d'un vieil éditeur qui se retrouve prisonnier d'un hospice en Angleterre. Pourquoi c'est un bon film de date? J'ai pris le temps d'élaborer quelques clichés, vous allez voir. Premièrement, parce que je suis une personne aux 1000 personnalités. Deuxièmement,
oh, mon Dieu.
Parce que je m'intéresse à l'histoire et à toutes les époques. Et troisièmement, parce que j'aime les mélanges de culture, la musique, les mouvements qui délivrent les opprimés et les esclaves des inégalités.
Non, c'est seulement Jim qu'on ne sortira jamais ensemble.
OK. Tant pis. Bref, Cloud Atlas, excellent film, je recommande si vous ne l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, vous n'avez sûrement pas tout compris, parce qu'à part Louis, ça prend toujours 2 ou 3 fois, 2 ou 3 visionnements pour bien comprendre.
Juste pour,
on en reparlera dans le problème d'infiltration.
Juste pour vous arrêter une seconde, il y a aussi, j'aimerais souligner que 2 de nos 3 films ont été dirigés par Lily Wachowski.
Tout à fait, qui est effectivement le créateur de la... pas le créateur de la Matrice, mais le créateur de la série, la ouais. Trilogie. Voilà. Tout à fait. C'est vrai quand même, hein?
Ah.
C'est beau de savoir que nos films de date se rejoignent à quelque part. C'est extraordinaire. Donc, voilà. On est 3, on est jeune, on est allé voir le problème d'infiltration tous les 3 et on est sorti avec 3 réactions complètement différentes. On avait prévu un quiz dans lequel Louis vantrait les vertus de Mission Impossible 3 et Mélina des Aristochats, mais on a choisi de remplacer ce quiz par une table ronde sur le problème d'infiltration.
Mais juste pour mettre en contexte, Louis a adoré le film.
Oui.
Moi, je n'ai pas du tout aimé le film et toi, t'étais...
Moi, je suis mitigé.
C'est ça, mitigé.
Ouais. Juste pour mettre en perspective aussi tout le débat, Problème d'infiltration, c'est un film de Robert Morin avec Christian Bégin comme personnage principal. C'est un film qui explore la descente aux enfers d'un médecin qui se prénomme Louis suite à une journée qui va de mal en pis suite à des événements assez traumatiques.
Il s'appelle pas Louis?
Le prénom du personnage, c'est Louis.
Il s'appelle Louis?
Oui.
Ah, c'est pour ça que tu as aimé ça.
Je refuse des accusations de favoritisme pour l'homonymie.
Moi, je pense que c'est ça.
C'était excellent.
Et tant qu'à ne pas être d'accord, j'ai divisé ce bloc en thèmes, comme pour un vrai débat politique, et j'ai amené des dés, Louis.
Yep.
Pour départager qui aura le mot du début. Alors, chers collègues, veuillez brasser le dé. Alors, on a...
3.
Mélina?
3 aussi.
Oh, deuxième brassée.
4.
1.
Bon, donc Louis, tu as brassé le dé. Le film est encore à l'affiche. Et comme tu es le gagnant, tu as 15 secondes pour donner tes impressions générales sur le film.
Une descente aux affaires, super bien tournée. Ça rappelle l'impressionnisme allemand. Ça rappelle les descentes des films danois. On voit des scènes extraordinaires. Oui, c'est beaucoup de symbolisme, mais c'est en même temps beaucoup de scènes vraiment intéressantes, vraiment bien tournées. Je pense que c'est quelque chose de différent qu'on voit pas souvent dans le cinéma québécois.
Merci, Mélina!
Moi, je dirais que c'est un film où il se passe absolument rien, où on ressent rien, et où le backstory des personnages n'est absolument pas développé, où on comprenne pas d'où ils viennent, et où tout est un peu flou, et où la fin, il se passe encore une fois absolument rien. Donc, ça reste un film un peu long et un peu plate par moment, vu qu'il se passe, comme je l'ai dit, absolument rien.
Bon, et de mon côté, personnellement, je crois que c'est un très bon film, mais il y a des lacunes. J'aurais aimé en savoir plus sur le passé du personnage principal et des autres personnages. Mais bon, avant d'aller plus loin, on écoute la bande-annonce.
Vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que je me défigure moi-même pour comprendre ce que vous vivez, c'est ça?
On y va.
Ça va, tout est sous contrôle.
T'es sûr?
Oh oui, je t'assure. Non, non. Ça me fait plus peur que mon fou à l'hôpital, parce que ça se passe ici, chez nous, dans ma maison!
Donc, le problème d'infiltration avec Christian Bégin, film de Robert Morin. On va parler maintenant, le deuxième point de ce débat, c'est le jeu des personnages. Alors Louis, t'avais brassé le dé, c'est à toi.
Le jeu des personnages, ben, c'est sûr que ici c'est presque trompeur d'appeler ça le jeu des personnages, c'est le jeu du personnage, parce que concrètement, la caméra est stickée à 2 mètres de Christian Bégin tout le long du film. On voit des gros plans sur son visage, on voit des moments, ce n'est presque que lui. On a deux autres personnages qui sont nommés, c'est-à-dire son fils et sa femme, et c'est tout. Il y a des amis qui sont présents, il y a des personnages qu'on entend seulement off-camera, qu'on ne verra jamais. C'est vraiment le travail de Christian Bégin. Et on est rentrés là, tous un peu
On avait incertains. peur que son jeu soit pas... Bref.
Parce que curieux Bégin. Mais finalement, je suis sorti de là impressionné par ce qu'il est capable de faire.
Droit de réplique à Mélina.
Je sais même pas par où commencer. Christian Bégin, il se passe absolument rien dans sa face, ni rien dans ses yeux. Puis tous les autres acteurs autour de lui étaient des gens qu'on ne connaissait pas. Je pense que tous les gens connus du cinéma québécois ne voulaient pas participer à ce film à cause du scénario. Mais je dirais que Christian Bégin, je pense qu'ils sont allés le chercher parce que, je sais pas, peut-être qu'il amenait une certaine popularité au film. Mais je dirais pas que son jeu était mauvais, je dirais juste qu'il était vide et qu'il y avait rien comme je pense qu'il y avait dans le film.
Donc t'as pas vu l'émotion dans son visage comme Louis l'a vu?
Non, j'ai pas du tout vu l'émotion dans son visage.
Okay. Mon Dieu, pourtant je suis sorti bouleversé de ce film-là juste par les silences de Christian Bégin.
Ah mais on est tous des gens différents, c'est ça qui est merveilleux. De mon côté, justement, ben, comme on disait, Louis, moi quand j'ai regardé la bande-annonce, ça m'avait laissé croire à un Christian Bégin très peu crédible, très théâtral, avec un niveau de langage un peu péteux, qui aurait clashé, mais non, effectivement, de mon côté aussi, je dois admettre, Louis, Bégin, on y croit, ça ferait d'ailleurs un bon slogan électoral, ça. Il est intense, dans les moments les plus intenses, il est troublant de réalisme, franchement, ça marche, pour ce genre de rôle bien précis du moins, parce que je peux pas en dire autant nécessairement de rôles différents.
Oui, excusez, je suis en train de me dire que ça me prenait Camping Sauvage 2 avec Christian Bégin comme acteur principal, tu verrais que M. Bégin est capable d'aller plus loin que tu penses.
On est rendu au troisième point de ce débat, la compréhension du récit. Louis.
La compréhension du récit, c'est sûr que c'est un récit symboliste, c'est sûr que c'est un récit qui passe souvent par des chemins détournés pour être capable de nous amener à l'histoire. Oui, il y a des moments où est-ce que il y a des trucs qui se jouent dans les détails. Une des scènes qui a été très controversée parmi nous trois, c'est la scène où Christian Bégin a une dispute avec son fils à propos de la musique qu'il écoute. On voit Christian Bégin qui sort dehors suite à avoir vu les traces de son gars dans la neige. Oui. Pour aller dans la remise en arrière, je cherchais le mot français, la remise en arrière pour trouver finalement, on voyait le fils plutôt habillé un peu cliché avec un débardeur, les pantalons propres, les souliers en cuir ciré, oui. Puis ensuite on le voit arriver dans la remise comme ça, puis il va sortir justement, c'est ça, du linge griffé, du linge tiré des collections vraiment hip-hop, avec la casquette, avec les souliers hors de prix qui vont avec, on le voit aussi sortir le téléphone de son fils, et se mettre à jouer du gros hip-hop québécois, mais vraiment vulgaire et très... Mais c'est toute une scène qui se joue dans les détails. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a personne qui nous tient la main, il n'y a personne qui nous explique. C'est un film qui nous demande de comprendre, puis qui nous force à aller chercher le détail. Donc oui, il fallait voir le moment où Christian Bégin entrevoit dans la fenêtre son gars qui rentre puis qui passe par en arrière avant de retourner en avant pour rentrer. Oui, ça demande un peu plus du téléspectateur, mais ça fait du bien finalement à un film qui ne nous tient pas par la main tout le long du récit.
Mélina, de ton côté?
Mais moi, pour ma part, cette scène-là, je ne l'avais pas du tout compris. Je pense que c'est une des choses qui m'a un peu dérangée dans le film, c'est qu'à chaque fois que je pensais que je comprenais quelque chose dans le film, ça se trouvait que c'était pas du tout ça. Donc cette scène-là, je l'avais pas du tout compris comme ça, comme plusieurs autres scènes. qui fait en sorte qu'en tant que spectateur, tu te sens des fois un peu floué par ce film-là, parce oui. qu'il t'amène à quelque part, mais finalement, c'est pas du tout là que tu t'en vas. C'est comme si tu prenais le train pour aller à Québec, mais que tu te ramasses à Vancouver.
Quoique, personnellement, je préférerais aller à Vancouver, mais ça, c'est un goût très, très personnel. Bref, de mon côté, au niveau de la compréhension du récit, personnellement, c'est vraiment là où le roseau va plier, pour reprendre ce vieil adage. Et bon, voilà. Donc, j'aurais aimé ça, moi aussi, qu'on m'explique un petit peu plus pourquoi les personnages sont comme ça. Le film ouvre sur une longue scène dans un cabinet de médecin. De chirurgien esthétique, bref. Et où on voit une longue conversation de Christian Bégin avec un patient. C'est ce qui amorce le film. Évidemment, cette scène-là est importante pour comprendre le film, mais c'est extrêmement long. J'ai un peu l'impression qu'on a voulu nous épater avec d'extrêmement longs plans-séquences, parce que, veux, veux pas, un plan-séquence, ça demande de refaire au complet si jamais il y a une erreur dans le dialogue ou quoi que ce soit.
En fait, je t'arrête un instant. C'est des faux plans-séquences. C'est-à-dire que tout le long du film, il va toujours y avoir des moments... J'ai été me renseigner sur ça, parce que moi aussi, j'étais impressionné, mais non. Il va toujours y avoir un moment où que la caméra va se tourner vers quelque chose de fixe.
Et là, il y a
ça. En réalité, on pourrait croire que c'est 4 longs plans-séquences. C'est faux. C'est une trentaine de faux plans-séquences.
Donc, en plus, on est floué à ce niveau-là. Pas des vrais plans-séquences.
Mais vous y avez cru, donc c'est pas tant floué.
Mais c'était bien fait.
Attends, cette scène-là est extraordinaire pour mettre l'émotion. C'est ça qui compte dans cette scène-là.
Oui, mais cette scène-là n'a aucun sens.
C'est malaisant.
Cette scène-là n'a aucun sens. Il n'y a aucun
médecin dans l'univers du symbolisme. Ça se veut être une scène qui ne sert qu'à mettre le reste du film en contraste. Ouais, c'est un 10 minutes que le réalisateur prend pour nous rendre mal à l'aise puis nous forcer dans cet esprit-là pour l'heure et demie suivante, pour que tout le reste du film, on le passe mal dans notre peau puis à se demander pourquoi, finalement, est-ce que ça continue. Puis je pense que c'est à partir de là qu'il bâtit la finale.
Oui, je suis d'accord
que c'est quelque chose d'important. Il veut nous rendre mal à l'aise pendant les 10 premières minutes. Moi, c'est là que ça n'a pas fonctionné. Ça ne m'a pas rendu mal à l'aise. Ça m'a juste ennuyé. Puis j'ai juste trouvé ça irréaliste aussi, parce qu'on s'entend que, bon, c'est une situation qui ne passerait jamais dans la vraie vie.
Ben non, il n'y a pas un médecin qui va faire ce que Christian Bégin fait au début du film.
C'est pas ça l'important. L'important, c'est juste d'accepter pendant un instant la suspension de l'irréalisme. Le suspension of disbelief est important. Puis ce film-là nous demande, nous plonge dans les symboles dès le début. Puis oui, c'est la question que le personnage pose à ce moment-là, puis que t'as mis dans l'extrait de bande-annonce. Donc, faudrait que je me défigure pour comprendre. À ce moment-là, Christian Bégin est avec un client qui est hautement défiguré, qu'on comprend, qu'il voit depuis plusieurs années pour régler sa situation.
Oui.
Christian Bégin qui est ici un chirurgien esthétique curatif, qui n'est pas capable, dans le fond, de l'aider. Mais c'est ça, c'est de dire qu'il n'y a pas moyen de patcher ce qui ne peut pas être guéri. Et c'est là un peu une partie des symboles qui est important.
Oui, mais ça aurait peut-être pu être montré d'une façon... je veux dire, il se met un bandage autour de la face. On s'entend que ça représente absolument rien pour comprendre la réalité de quelqu'un. Je veux dire, si au moins il y avait eu une action, si le gars lui avait lancé, de l'acide au visage, au moins il se serait passé quelque chose dans
le
film.
Ça aurait pas été le même film.
Ça aurait été encore plus réaliste.
À ce moment-là. Ouais, non, c'est ça.
Mais bon, enfin, tout ça pour dire qu'on est déjà à la fin de notre débat. Le mot de la fin, Louis.
Excellent film, c'est un symbolisme. C'est sûr que ça demande un peu plus de compréhension. C'est sûr que ça doit être écouté pas comme un film narratif, mais comme un film contemplatif.
Mélina?
Moi, je dirais que je peux comprendre que des gens comme Louis ou autres personnes peuvent aimer ce film. Je dirais simplement que si vous avez envie de vous détendre un après-midi, une soirée, amener votre date au cinéma, n'allez pas voir le problème d'infiltration.
Non, mais ça, je peux être d'accord, par contre.
C'est pas un bon film de date. Merci, Mélina. Et de mon côté, j'ai trouvé que c'était un film... C'était pas un mauvais film. C'est un film que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus expliqué par moment. Mais bon, ce sera toujours le débat. Évidemment, un débat, ça sert juste à faire entendre notre opinion. Je pense pas que personne ici va... Le roseau de personne ne pliera sur cette table. Donc voilà, c'est la fin de ce débat. Et dans quelques instants, on parle des sorties.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. quel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, trop plein de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
C'est le moment de parler des sorties DVD Blu-ray. Et encore une fois, cette semaine, je me pose la question, est-ce qu'il y a encore des gens qui écoutent ça, des DVD? Mais bon.
Le VHS est mort.
Je pense que le Betamax aussi.
Oui.
De mémoire.
Oui,
c'est ça. Vous pouvez regarder Wonder Woman avec Gal Gadot. Je pense que ça se prononce Gal Gadot. Gal Gadot et Chris Pine et Robin Wright, la femme de Frank Underwood dans House of Cards. C'est pour le divertissement, bien sûr. DC Comics, super-héroïne au lieu de super-héros. Diana est élevée et entraînée au combat par des Amazones sur une île isolée. Elle rencontre un pilote allié de la Première Guerre mondiale et décide d'aller à Londres pour l'aider à sauver l'Europe des méchants nazis.
C'était excellent.
Oui?
Ah, moi, j'ai vu et j'ai vraiment adoré. Malgré la controverse qu'il y a pu y avoir autour de Gal Gadot, ce film vaut définitivement la peine.
Je suis content de l'apprendre. Il n'en est pas de même pour le film québécois La chasse au collet qui est sorti aussi en DVD Blu-ray avec Juliane Côté, Paul Doucet, Anne-Marie Cadieux et Christian Bégin. C'est l'histoire d'Élise, une jeune hygiéniste dentaire traumatisée dans son enfance qui a des sérieuses difficultés relationnelles. Elle s'inscrit sur un site de rencontre extra-conjugale et là, il y a Éric, le propriétaire du site. Et pour combler le tout, le père de famille commence à abuser de la médication. Donc, très, très, très mal coté, ce film. Mais du moins, si vous avez envie de voir Christian Bégin dans un autre film, vous pouvez vous procurer ce film, La chasse au collet. Sinon, dans un registre plus léger, Mal d'amour, de Big Sick, en version originale, ça a l'air particulièrement bon, selon moi. Comédie sentimentale américaine, Kumail fait partie d'une famille pakistanaise qui a émigré aux États-Unis. Il se sent pris entre deux réalités. Devenir humoriste, son amour pour Emily, ou respecter les traditions de son pays, dont un mariage arrangé par la famille. J'ai vu la bande-annonce à la Maison du cinéma et je peux vous dire que ça semble franchement bon et ça, c'est sorti en DVD Blu-ray, si vous voulez le voir.
Ça va sortir à la Maison du cinéma et en DVD?
En fait, je ne sais pas pourquoi.
C'est peut-être une sortie directe DVD et film. C'est quand même fréquent dans ce genre de film-là.
Bon, ben tu vois, c'est ça.
Films que
mais dans ce cas, allez le voir au cinéma parce que ça a l'air vraiment bon et ça va être, à mon avis, meilleur à regarder en salle.
Oui, c'est avec Zoé Kazan aussi qu'on a vu dans Ruby Sparks.
Tout à fait.
Qui est un très bon film aussi.
Sinon, les gens comme Louis voudront peut-être regarder Le Clan Maudit de Bad Batch avec Suki Waterhouse, Jason Momoa, Jim Carrey et Keanu Reeves. Et c'est dans un ton très post-apocalyptique. On est dans le désert des bannis. Arlène, une femme, se fait capturer par les cannibales et la jeune femme arrive à s'en sortir vivante, laissant toutefois quelques membres, donc des parties de son corps, derrière elle. Elle fera ensuite la rencontre d'un cannibale qu'elle aidera à retrouver une fillette. Donc, Le Clan Maudit.
C'est 44% sur Rotten Tomatoes. Qui a créé cette situation-là.
Mélina, il n'y a pas que des films, il y a aussi des séries.
Oui, voilà. Alors, je vais vous parler un peu de Big Little Lies, Petit Secret, Grand Mensonge en français, qui a été récompensé avec 8 Emmys aux Emmys Awards dimanche passé. Donc, c'est une série qui est réalisée, une mini-série, en fait, réalisée par Jean-Marc Vallée, qui est avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, qu'on a vu dans Divergence. Donc, ça a gagné le prix de la meilleure mini-série pour une série limitée, la meilleure actrice, le meilleur acteur de second rôle, la meilleure actrice de second rôle, la meilleure réalisation et ainsi que 3 prix techniques, tout ça dans la catégorie des séries limitées. Donc, c'est fortement à voir.
Ça a l'air bon. Et Louis, de ton côté, qu'est-ce que le cinéma projette de projeter de bon?
Fabriqué en Amérique, American Made avec Tom Cruise.
C'est ton genre, ça.
Ah mon Dieu, j'ai regardé la bande-annonce et j'avais déjà des palpitations. C'est un film, c'est une histoire vraie qui se passe dans les 80 à propos d'un pilote d'avion qui, sous les ordres de la CIA, commence à partir un des plus gros cartels de drogue de l'Amérique. On a également Ligne Interdite, Flatliners, avec Nina Dobré, Kiefer Sutherland et Ellen Page. C'est un groupe d'étudiants qui expérimente sur les limites de la mort.
Oh.
Version anglaise de Flatliners. Également, à la Maison du cinéma, Retour en Bourgogne avec Anna Girardot et François Civil. C'est un homme qui a quitté sa Bourgogne natale pour une dizaine d'années pour faire le tour du monde, qui revient pour voir son père, qui décède
quelques
temps avant la saison des vins. Et c'est donc ces deux frères et cette sœur qui reprennent leur relation fraternelle au travers de la saison du vin.
Oui, et il y a toute la notion de garder la terre et tout ça. J'ai vu la bande-annonce aussi, ça a l'air quand même intéressant.
Yep, ben en fait, j'allais justement dire l'inverse.
Ah, mais nos goûts sont différents, hein, c'est normal. Ça. C'est merveilleux.
Donc c'est ça. Moi, s'il n'y a pas de gun, je ne suis pas satisfait.
Très rapidement, c'est la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez voir pour la semaine prochaine?
Moi, c'est sûr que je vais aller voir Kingsman. Sinon, American Made va probablement aussi faire partie des films que je vais voir. Probablement aller voir Mother. En fait, je vais être bien occupé au cinéma cette semaine.
Émilina, de ton côté?
J'ai pas encore décidé, mais il y avait le film sur la mort du roi Louis XIV, parce que j'ai quand même un intérêt pour les films d'époque.
Merveilleux. Et moi, je vais probablement aller voir Les Rois Mongols. C'est sur les événements d'octobre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se dit à la semaine prochaine. Même brunch heure, même brunch chaîne. Merci Louis, merci Émilina.
Merci.
Au revoir.